Bienvenue au Compte de Trois, épisode numéro 13, en compagnie de Thomas et William. Les gars, ça va bien?
Ça va très
Oui,
bien.
c'est notre épisode spécial aujourd'hui, comme promis depuis un certain nombre d'épisodes. Je vais laisser Thomas introduire l'invité.
Ouais, en effet, aujourd'hui, au Compte de Trois, on reçoit un membre du podcast Le Petit Paquet, podcast RD. Personnellement, c'est ça qui m'a fait embarquer dans la lutte. Mathieu Poulin,
Oh! Ah ben oui, c'était
bienvenue.
une belle présentation que tu me dis là. J'ai comme assumé que les gens qui écoutaient Le Petit Paquet étaient déjà des fans de lutte à la base, mais là, tu m'apprends quelque chose. Fait que ça fait d'autant plus plaisir d'être ici pour partager un peu d'impressions sur Survivor Series, notamment, avec vous autres. Donc, ben merci d'avoir invité.
Ben, merci d'être là. Aussi, on tient à te féliciter pour ta nomination au prix des libraires 2021 pour ton roman à la lutte. D'ailleurs,
Oui, c'est...
excellent.
J'étais bien heureux d'apprendre ça. En fait, je l'avais su 2 jours d'avance, j'avais pas le droit d'en parler, mais j'étais bien heureux de pouvoir partager ça avec les gens hier. T'sais, on dirait que ça m'a quand même surpris. Je pensais pas que je faisais partie encore du main event, si on veut, de la scène littéraire québécoise. Et ça, c'est quand même un des principaux honneurs, là, un des principaux prix qui sont remis à chaque année. Faut dire que là, bon, faut pas trop s'emballer parce que c'est pas encore la shortlist, c'est pas les véritables nominations, c'est la liste préliminaire, mais quand même, de me retrouver dans cette liste-là avec des grosses pointures autour de moi, ben ça fait un petit velours. Puis je suis aussi de. Parce que je me dis que ça risque de faire en sorte que ben, ça va recommencer un petit peu à faire parler de ce roman-là. Tu sais, les romans n'ont jamais des durées de vie très, très longues. Là. Je dirais, au Québec, c'est le cas, mais j'imagine que c'est le cas également ailleurs dans le monde. Fait que là, tu sais, je me disais, ça fait quoi? Un an qu'il est sorti. Les gens qui avaient à lire, ils l'ont probablement déjà lu. Je ne m'attendais plus vraiment à ce que ça fasse jaser. Ben, et là, ben voilà, cette nouvelle-là le remet dans l'actualité. Donc, j'en suis bien heureux.
Ben, on souhaite de gagner, vraiment. Moi, personnellement, j'ai adoré ce roman-là. C'est vraiment bon.
C'est bien gentil.
Avant qu'on commence, j'aurais une petite question. C'est quoi qui t'a
Oh, un petit bug
poussé à écrire
Le
un
sens du
livre sur la
bug,
lutte, sachant
Ouais,
que
il va
cette
falloir que tu recommences
semaine.
ta question.
Il y a eu un bug, Tom.
Ah, ah, OK. Désolé. Ouais.
Ça va, ça
Donc,
arrive.
ma question, c'était. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre sur la lutte, sachant que c'est un domaine qui est très peu exploité dans la littérature québécoise?
Ben, peut-être le fait que c'était justement peu exploité en littérature, c'était un incitatif. Tu sais, j'allais pas écrire un 75e roman sur comme un trentenaire déprimé dans son appartement du plateau Mont-Royal, là. C'est pas mal tout ça, la
Bon.
littérature québécoise depuis une quinzaine d'années, à peu près. Donc, mais cela dit, il y a quand même des précédents, notamment. Il y avait le roman L'homme qui a vu l'ours de Patrick Roy, là, à ne pas confondre avec le Gauler, là, Patrick Roy, c'est un écrivain à la maison d'édition Cartanier. C'est un roman qui avait été publié il y a de cela, je dirais, 6 ou 7 ans. C'était pas un roman qui reposait au complet sur la lutte, là. C'était bon, essentiellement une histoire d'enquête, mais qui avait comme disons, univers général, celui de la lutte. Mais moi, j'ai voulu disons, approfondir ça un petit peu plus. Et puis, ben, encore plus disons, précisément, bon, j'ai recommencé moi-même à m'intéresser à la lutte professionnelle il y a de cela, ben, maintenant, je dirais peut-être 6 ans à peu près, là. Tu sais, c'était pas longtemps avant que genre Kevin Owens arrive à NXT, là, ça arrive pas mal. C'est pas mal à ce moment-là là, que moi j'ai rembarqué dans la lutte. Puis je pense que justement de voir non seulement un, mais deux Québécois qui obtenaient autant de succès, ben, ça a contribué à faire mousser mon intérêt pour le projet WWE. Et là, je recommençais à m'intéresser à la lutte. Puis il y a un de mes amis, en fait, simplement, qui m'a dit, je ne sais plus d'où il venait l'idée, mais il me dit, tu devrais écrire un roman sur des lutteurs qui veulent se syndiquer. Puis je fais comme, hey, dude, tu dis ça comme une joke, mais je pense que c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Puis là, ben, j'ai pris quoi, peut-être un an ou deux pour y réfléchir. Puis après ça, ben, je me suis lancé dans l'écriture. Ça m'a pris peut-être 3 ans à écrire. Et puis maintenant, ben, je suis quand même très, très heureux du résultat. T'sais, un des défis, c'était que fallait pas que ce soit un roman, par exemple, qui puisse intéresser juste les fans de lutte. Parce que t'sais, normalement, comme la crowd de lutte puis la crowd de lecteurs, c'est pas nécessairement la même crowd. Là. Si je m'étais juste intéressé, t'sais, si on parle en termes de diagramme de Venn, là, genre à la petite zone là, de croisement de ces deux crowds-là, j'aurais pas été lu par grand monde. Donc le défi, c'était de faire un roman quand même qui restait accessible, qui n'était pas juste dans. T'es pas juste compréhensible pour les initiés. Et je pense que ça, visiblement, ça a été réussi. Parce qu'il y a beaucoup de monde, en fait, même qui m'ont dit que c'était pas du tout à la lutte avant. Et puis, ben, après avoir lu ce livre-là, ben, ça a commencé à faire naître chez eux un intérêt. C'est pas de là à s'abonner au WWE Network, mais juste sur YouTube, il y a comme tant de matériel que tu peux aller voir pour faire un peu ton histoire de la lutte. Donc, ben, voilà la petite histoire derrière la genèse de ce livre-là.
Ben, c'est super pertinent, pour vrai, merci.
Ouais. C'est quoi qui t'a amené à aller au Petit Paquet? À travailler avec Balco, puis ensuite de ça, le Petit Paquet?
La base de ça, c'est, on remonte à, je dirais, à la fin des années 90, avec qu'il y avait un site sur le web québécois qui s'était Lutte le Webzine, genre Lutte avec un point d'exclamation, le Webzine, qui a commencé, là, je dirais, à devenir populaire, je dirais, vers 98, 99 à peu près. Moi, à ce moment-là, j'étais quoi? J'étais fin secondaire à peu près. J'ai un de mes amis qui était un gros fan de ce site-là. Puis, c'était comme avant le web 2.0. Internet n'était pas participatif comme il l'est aujourd'hui. La seule façon qu'on avait de participer au produit, c'est à travers les forums de discussion. Puis Lutte le Webzine, c'était un des premiers sites au Québec à vraiment exploiter de façon inventive les forums de discussion, ce qui fait en sorte qu'il y a eu une énorme communauté qui s'est développée autour de ce site-là. À la base, c'était un site de lutte, mais assez rapidement, là, en réalisant la communauté qu'il y avait autour de ce site-là, bien, il y a eu un volet cinéma, un volet jeux vidéo, un volet musique. C'est tout ce qui relevait de la culture populaire avait son site. Là, c'est devenu vraiment une espèce de gros portail. Et bon, moi, je me suis mis à participer pas mal sur ces forums-là. Bon, j'ai même créé mon site qui était en lien avec ça. Donc, j'ai eu un rôle assez important à jouer dans l'évolution du webzine. Et dans la communauté, c'est là que j'ai rencontré sur Internet initialement, mais ensuite dans certains événements, notamment on allait voir de la lutte, on allait voir des films, j'ai rencontré Stéphane puis François sur Internet à ce moment-là. Puis bon, on était essentiellement des connaissances virtuelles qui partageaient des intérêts communs. En plus, bon, Stéphane, comme moi, faisait des études en cinéma à ce moment-là, fait que on avait encore plus de sujets desquels on parlait. Puis là, après ça, il y a quoi? Peut-être une dizaine d'années à peu près durant lesquelles j'ai essentiellement perdu de vue. Je dirais, bon, mis à part, on s'est ajouté sur Facebook pour avoir des nouvelles, mais sans jamais vraiment se parler. Entre-temps, c'est ça. Stéphane et François, eux, sont mis à travailler pour RDS. Stéphane a hérité d'un mandat, notamment avec Urbania, de créer un site qui allait, disons, traité de sport, mais avec un peu l'espèce d'esprit Urbania, là, un peu plus, Internet savvy, là, si on veut. Étant donné que, bon, Stéphane entendait que je commençais à m'intéresser à la lutte, même au sport en général, il m'a contacté pour me demander si justement je voulais participer à Balcourbe. Donc, initialement, sur Balcourbe, je commençais à parler de, je parlais de plus de hockey, puis je faisais des montages, mais éventuellement, plus mon intérêt pour la lutte recommençait, plus j'écrivais des textes sur la lutte sur ce site-là. Et ben, par la force des choses, quand Stéphane et François ont décidé de se partir un podcast, ils m'ont demandé si je voulais participer avec eux autres, puis je me suis dit, oui, mais tu sais, on va faire ça, on va tranquille, une fois par mois à peu près. J'avais fait quand même pas mal de radio à l'université, la CISM, à l'Université de Montréal avant. Ça me manquait un petit peu, mais je savais que c'est quand même un engagement. Là, préparer des émissions à chaque semaine, c'est de la job. Je n'étais pas sûr que je voulais me réinvestir à ce point-là dans un projet de genre. Mais après avoir fait deux, trois épisodes, puis après avoir constaté à quel point on avait comme vide la chimie ensemble, puis c'était le fun à faire, on a fait comme fuck it, là, on y va à chaque semaine. Puis on a construit un podcast quand même qui est devenu assez gros avec ça. Donc voilà, là aussi, la genèse derrière ma participation au Petit Paquet et à Balcourbe.
Ah ben, c'est franchement très intéressant. Bon, on va commencer avec un Survivor Series. Mm-hmm. Le premier match, si je ne me trompe pas, c'était le 5v5 Dom.
Non, dans le pré-show, c'était Battle Royale.
Ah oui, c'est Battle Royale. Ouais. Personnellement, moi, j'allais manquer. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars, ceux qui ont écouté?
Ben, c'était ordinaire, là. C'était une Battle Royale encore. Pas d'histoire. pas d'histoire. Puis la façon dont ça s'est terminé, par contre, je trouve ça intriguant avec Dominique, qu'on lui a donné quand même un beau spot de finaliste. C'était intelligent. C'était intelligent. Puis à la fois, ben, je suis curieux de voir pourquoi qu'on a fait ce spot-là pour Dominique, puis voir aussi que ça va venir pour lui. Mais c'est un match-là, c'est un match de plus chaud, puis c'est vraiment pas marquant pour vrai. C'était même. Ben, c'est ça, c'est correct. Là. Note de passage, juste sur 10.
C'est une autre façon de mettre tout le monde sur sa carte. Pareil. Selon moi, Dominique, il devrait avoir un championnat d'ici la fin de 2021 qui soit genre un mid-card, parce qu'ils ont d'air assez à l'aimer.
Peut-être. Je pense que c'est audacieux comme prédiction. Je pense qu'il est encore jeune. Je comprends qu'il y a une place privilégiée dans la carte à cause de son père essentiellement, mais je pense qu'il y a quand même encore des croûtes à manger. Même si
c'est pas parfait, c'est bon, c'est sûr.
À date, mais de là en faire un champion, je pense que visiblement, on veut faire de lui un babyface. Je pense pas qu'il y a comme le casting d'un méchant, mais si on fait de lui un champion trop vite, je pense que ça ferait en sorte que les gens risqueraient de se revirer contre lui en disant, ben regarde, là, je dirais, il n'a pas encore mérité ce titre-là, il a cet honneur-là juste à cause de son père, fait que peut-être que ta prédiction va se réaliser, mais je suis pas sûr que ça serait le meilleur des moves de la part de la WWE pour, disons, la pérennité de ce personnage-là. Non?
Ouais, t'as pas tort, c'est vrai.
D'après moi.
Non. Ben, je suis d'accord avec Mathieu, là. Il est quand même jeune. Peut-être, je l'aurais vu en tag team avec Mysterio, peut-être. On a écarté ça super vite. Il y a eu une chance pour le titre récemment, en plus. Mais mid-card, c'est rapide. Peut-être 24-7.
Peut-être.
Ouais, je suis avec ça. C'est un peu.
Bon, Will Taro.
Ça a bugué. Ça a bugué un peu. Ben, vive les connexions de la morgue ici.
C'est ça, okay. Exactement. Ouais.
On va continuer sur la lancée, comme tu disais, le 5 contre 5 des gars.
Mm-hmm. Ouais. On va commencer en disant qu'il y a une nation de Seth Rollins. Mettons que je m'attendais à mieux.
Ben, je pense que c'est une porte de sortie pour le sortir des écrans, ça.
Mm-hmm. Ouais, je veux bien, mais s'il a quand même pu faire, je sais pas, 2-3 moves.
Mais en même temps, je pense que c'est cohérent avec son personnage. J'avoue que bon, j'ai un peu moins suivi SmackDown dans les dernières semaines. Donc, j'ai pas tout vu l'évolution de son personnage, mais bon, toute la dimension religieuse un peu de Messie. T'sais, ça vient avec l'idée du sacrifice aussi, t'sais, genre Jésus est mort pour vos péchés. Donc là. C'est d'avoir Seth Rollins qui vient lui-même se sacrifier for the greater good, comme il disait. Ça lui donne du heat aussi dans une certaine mesure parce que c'est pas. On trouve pas ça le fun comme situation. On voit le zoo évoluer, OK.
On a un retour de William.
C'est ça. Mais en même temps, je pense que c'était pas super le fun à voir, mais je pense que c'est cohérent quand même avec l'histoire. Puis bon, comme on a pu le comprendre, en fait, c'est parce qu'il part en congé de paternité. Là. Bon, Becky n'a pas encore accouché, mais ça ne sera plus très, très long. Puis en même temps, quand même, Seth Rollins, c'est un workhorse là, quand même. Donc, je pense qu'il a mérité d'avoir une petite pause pour pouvoir se reposer. Puis ça fait changement aussi de l'histoire de « on t'enlève des histoires parce que tu as une grosse blessure. » Là, c'est pas le cas pour lui. Donc, on n'invente pas de blessure. On fait juste lui demander de sacrifier. Puis, moi, la question que j'ai pour vous, c'est quand on va le revoir, est-ce que vous pensez qu'il est encore gentil ou il est méchant?
Je pense qu'il va être encore méchant
ou est-ce qu'il va redevenir gentil, en fait?
Je pense qu'il va être encore méchant, d'après moi. Parce qu'il passe State. Puis ce personnage-là, personnellement, je le trouve excellent.
Ouais.
Fait que sûrement, je pense qu'ils vont garder quand il faut revenir. D'après moi, il reviendrait après WrestleMania.
Mm-hmm. Ben, moi, j'en garde un méchant aussi.
Il partirait pour juste 3-4 mois, je pense.
Ouais.
3-4 mois, ça fit pas mal après WrestleMania. Là,
ouais. Mais d'après moi, pour le bien du personnage, ça serait bien qu'il reste heel parce que, tu sais, je veux dire, face, c'est qu'on stand facilement de ce gimmick-là. Tandis que Hill, il est bon, un peu comme présentement Monday Night Messiah ou bien il y a The Architect dans le temps. Selon moi, c'est ses deux meilleurs gimmicks.
Ouais. Son petit gant à deux.
Ouais.
Ah, c'était bon.
À moins qu'il revienne après WrestleMania pour être un challenger à Roman Reigns s'il a gardé son titre après WrestleMania, ça pourrait être une option.
Ça se pourrait.
Ouais. Là, d'ailleurs, en parlant de WrestleMania, on a... d'habitude, on commence à avoir des idées pour les grosses feuds à WrestleMania, mais cette année, on n'a aucune idée. Là. C'est vraiment... c'est vraiment ouvert, je trouve.
Ouais. Mmh.
Ben justement, souvent, Survivor Series est utilisé pour commencer à établir ces histoires-là, mais si on prend, là, c'est sûr qu'on en parle match par match, mais j'ai comme pas vraiment l'histoire que... J'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire qui a avancé de façon claire dans ce pay-per-view-là. On est un peu au même point qu'on était avant le début du pay-per-view. T'sais, on se souviendra... Non, je l'ai mélangé avec le Royal Rumble. Je pensais juste au documentaire de Taker, puis d'abord l'affrontement de Taker, puis Roman Reigns, mais je pense que ça avait eu lieu dans Royal Rumble et non pas Survivor Series.
Ouais,
c'est
Rumble.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, si on pense... de men, en fait, ça avait commencé surtout à prendre de la vitesse avec Survivor Series. Là, c'était dans le build-up de ce gars-là que Becky s'était fait fracturer le nez par un Nia Jax, etc. Puis là, ça avait comme contribué à faire quelque chose de plus grande nature pour elle. Mais là, tu sais, à la fin de ce gars-là, est-ce qu'il y a un lutteur qui sort grandi, qui a l'air d'un plus grand, un aspirant, disons, plus menaçant qu'il était auparavant?
Zéro, puis honnêtement, il y avait tellement de matchs qui auraient pu bénéficier, mettons, d'une attaque pour faire avancer soir. Je prends comme exemple Sasha Banks contre Asuka. Mm-hmm. On aurait pu avoir une attaque de Carmella pour faire avancer sa feud, puis on n'a rien eu. C'est ça, monsieur, même plus qui a gagné, honnêtement. C'est un match très oubliable.
Ben, c'est ça aussi. Non seulement, dans l'ensemble, le gars-là n'avait pas... A pas raconté d'histoire qui était particulièrement intéressante, mais étant donné qu'il n'y avait pas de véritable enjeu jamais, ça faisait en sorte que même si les matchs étaient en termes de qualité de lutte, pour la plupart étaient très bons, puisque peu importe qui gagnait, ça n'allait rien changer en ligne, ça faisait en sorte qu'à la base, on se sentait moins investi. Donc ça, c'était quand même un problème. Problème d'avoir des matchs justement champions contre champions aussi. Puis c'est maladroit de la part de la WWE. Je trouve ça bizarre, la nécessité qu'on a de vouloir montrer qu'un championnat est plus important que l'autre championnat qui est censé être équivalent de l'autre bord. Tu devrais, à la lutte, toujours trouver des moyens d'élever tout le monde en même temps, mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Là, justement, on parlait du match 55 des hommes initialement. Tu sais, que c'est un squash là, essentiellement, que tous les lutteurs de SmackDown se fassent éliminer puis que tous les lutteurs de Raw restent là. C'est quoi le message que ça envoie sur SmackDown? Que c'est genre un bloc de merde, voyons.
T'es en train de dire que ça vaut pas la peine de l'écouter parce qu'ils sont poches.
Ben, c'est ça. Fait que c'est quand même bizarre. Puis, encore une fois, je ne comprends pas c'est quoi l'histoire racontée avec ça. T'sais, peut-être qu'il y avait quelque chose avec Jey Uso et Roman, mais une fois qu'ils ont fait leur petite rencontre backstage, après, là, on voit une tension entre les deux. Mais à la fin du match de Roman Reigns, finalement, ils se serrent dans leurs bras, on est réconciliés. Ça ne sert à rien partout.
Ouais, ben, le concept de Survivor Series, c'est un concept qui est très outdated selon moi. C'est Brand Supremacy, le monde sans sac.
Ben, l'affaire, c'est que les autres années, on faisait vraiment, on mettait vraiment un point sur brand contre brand, l'importance que Raw gagne contre SmackDown pour, tu sais, avec les General Managers aussi, ça l'aidait. Mm-hmm. Là, genre, je veux que mon brand il soit meilleur que l'autre. Là, cette année, pas d'intervention cross-brand à part Roman Reigns et Drew McIntyre, une promo. On n'a pas senti de rivalité, c'était vraiment juste, on garoche les champions, puis remplissez-nous une soirée. Là.
C'est ça. Fait que c'est problématique. Pourtant, l'année passée, il avait quand même réussi à réinsuffler une nouvelle énergie dans le concept en intégrant NXT. À la limite, ça aurait pu être une bonne idée. Ça pourrait être une bonne garder ça à chaque année d'avoir NXT. C'est le pay-per-view WWE dans l'année où ça permet de showcaser la relève. Là, justement, plus on se souviendra, l'année passée, c'est là que Keith Lee a fait son début à WWE. Puis, il avait comme fini, je pense, dans le Final Two avec Roman Reigns. Tout le monde était comme « Oh shit, Keith Lee, OK, il y a quelque chose qui se passe avec lui. » Puis là, il est rendu dans une meilleure position en compagnie. Donc, ça avait servi quand même, tu sais, ça avait fait progresser les choses. Tandis que là, ben, c'était pas le cas. Puis, je trouve ça dommage.
Ouais, je ne sais pas ce que Vince a pensé à promettre NXT. Il fait une couple de Humanity, mais je suis assez déçu.
Ouais.
Ben, surtout que tu es dans une guerre contre All Elite avec NXT. Fait, selon moi, c'est le show qui peut aider à remonter ses ratings. Là.
C'est ça.
Ben, pour continuer sur le match, à part Seth Rollins qui était venu rapidement, comme Mathieu t'a dit, ben, Equipe Raw a squashé SmackDown.
Mm-hmm.
Ouais. Sinon, y a-tu un spot qui vous flash d'intéressant ou sinon c'était. Moi, à ma mémoire, pas vraiment. Là.
Pas ben, moi, il y avait comme un peu de tension dans Team Raw.
Ouais.
Avec Braun Strowman, d'ailleurs, qui s'est fait suspendre de ce que j'ai vu hier. Là. Il fait ben, ouais. Suspendre en guillemets là, à cause qu'il s'est attaqué à un officiel, je pense, hier à Raw. Donc, ouais, ça. Ouais, ça risque d'être intéressant. De voir ça, le build-up dans ce film pour être TLC.
Mm-hmm. Et ça revient à ce qu'on a dit sur le podcast de prédiction de Survivor Series. Je trouvais que le roster de SmackDown, qui représentait SmackDown, était faible.
Ben, c'est sûr que quand tu mets du côté de Raw, Strowman, puis Lee, c'est un peu dur de rivaliser du côté de SmackDown quand tes meilleurs sont champions. Tu sais.
Mm-hmm. Ouais, c'est clair. Ça. Ben, Cesaro, Nakamura, moi, c'est des gars que j'aurais.
Peut-être, mm-hmm. mais c'est pas des gens que tu peux voir rivaliser contre Strowman et Keith Lee. Tu sais, si on y va avec le sens logique. Là.
Ouais. Ouais. À la limite, tu sais, là, visiblement, depuis quelques mois, on essaie de faire de Jey Uso un main eventer. Ben, ouais. Justement, là, il se retrouvait dans une situation 1 contre 5. Si tu veux y aller à fond dans cette storyline-là, qui est une des meilleures storylines de WWE présentement là, autour de Roman Reigns, ben, tu fais en sorte que Jey Uso, non seulement il a bien paru dans les derniers pay-per-views, mais il réussit tout seul à battre toutes les autres. Là, tu aurais eu quelque chose d'intéressant, mais qu'il se fasse battre sans même en sortir un. Ça vient quasiment invalider aussi les efforts des derniers mois.
Donc, ça, moi, quand j'ai vu qu'il restait juste Uso, j'étais comme bon, ils s'en vont vers là, mais c'est tellement plus décevant de ce qu'ils ont fait.
Mm-hmm. Il a eu son spot avec ses super kicks sur presque tout le monde deux fois. Là.
Ouais, c'était cool.
Ben, c'est ça. Il a donné son petit spotlight pour 5 minutes, mais ça aurait été pertinent, je pense.
Au moins qu'il en fasse sortir un ou deux, là, au moins. Ouais. Parce que, tu sais, ça sert à quoi qu'il balaye SmackDown? Là? C'est comme 200 quand Raw avait balayé la carte au complet, ça servait à quoi? Honnêtement,
Ouais, je suis d'accord.
Que SmackDown n'est pas.
100% d'accord. Deuxième match de la soirée, si je me souviens bien, c'était Tag Team?
Oui, c'était une Tag Team. Oui.
Avec la belle entrée de New Day avec leur outfit de Gears of War.
Ouais, promotion du jeu vidéo qui sort ben, ou qui est sorti, je ne sais pas trop. Là, c'est une extension.
Ouais,
t'aurais aimé ça. Ça, c'est un gros flag que je lève. Biggie, oui, tu fais une promotion pour une extension. C'est sûr que tu as de l'argent à se faire derrière ça. Mais ça, c'est une erreur qu'on a faite de côté de la E, selon moi, de mettre Biggie dans l'entrée puis ringside pas longtemps New Day dans ce match-là. Il n'y avait pas besoin de ça.
Mais il n'a pas intervenu non plus. Même sur des différentes brands, c'est plus sûr qui sont. Si je fais qui est fait à fond, même si sont sur des différentes brands, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus amis. Si je veux dire,
c'est pas le fait de jouer sur ils sont amis ou pas, c'est que on les a séparés. On veut donner un push à Biggie. Fait que pourquoi tout le temps le renvoyer vers eux autres quand que justement on veut donner un spot solo et que ça marche bien, tu sais.
Exact.
J'ai eu l'impression en fait. Parce que je pense qu'on était une coupe à s'attendre quand il restait un spot dans l'équipe de SmackDown de Survivor Series que ça soit Big Rip de cette place-là. Finalement, ça a été Otis. J'ai l'impression qu'on a décidé de donner le spot à Otis juste pour que Biggie puisse faire son entrée de promotion de leur extension de jeu vidéo avec ses boys. Mais est-ce que bon, c'est la meilleure décision? Bon, en même temps, ça ne me dérange pas vraiment, tu sais, je veux dire, parce qu'on sait que dans le WWE, les choses changent vite, puis il n'y a rien qui l'empêcherait quand même de se distinguer du lot dans les prochains mois avec le Royal Rumble notamment. Mais je pense que tu sais, individuellement, ça veut dire qu'individuellement, Biggie aurait plus bénéficié dans l'équipe de Survivor Series de SmackDown. Mais si on savait que l'équipe allait se faire squasher, ben, en bout de ligne, ça l'aurait fait moins bien paraître. Donc, peut-être que c'est une bonne idée, finalement, de ne pas le mettre dans cette équipe-là.
Ben, Biggie, moi, je le verrais bien pour le Rumble, honnêtement, gagner. Je le verrais bien.
Je pense qu'il est dans les finalistes, selon moi aussi.
Ouais. Puis ça pourrait être un bon spot justement de briser la ligne là, avec, tu sais, s'il sort Kofi ou Xavier avec, par le Rumble justement. Ça pourrait être la cassure que moi j'aimerais ça qu'on voit.
Bonne idée.
Ouais, ben, c'est intéressant là, sur des choses pour Biggie, en effet, je le voyais là aussi. Mais pour venir au match tag team, c'est un match honnête, mais j'ai pas plus aimé qu'il faut là.
Ouais, ben, la lutte était bonne. J'aime bien qu'il ait joué sur le fait que les gars, que les deux équipes se connaissaient, même s'ils n'avaient jamais lutté ensemble. J'ai bien aimé ça, mais honnêtement, c'est un match honnête sans plus.
Tu sais, c'est bien. Quand c'est bien fait de voir le respect entre les équipes ou les lutteurs comme ça, moi ça m'intéresse. Tu sais, c'est sûr que la lutte, par définition, il y a comme toujours une petite coche de plus quand on sent vraiment une rivalité, une animosité entre les compétiteurs. Mais là, je trouve que ça a été bien fait. L'approche, on est des amis, qui se respectons, on va essayer de faire le meilleur match possible. Puis je trouvais que... Tu sais, New Day n'ont plus rien à prouver. Ils sont quand même déjà 10 fois champions. C'était une façon pour eux de donner la taille, en quelque sorte, aux Street Profits. Je ne pense pas que New Day, c'est fini. Ils vont continuer. Il y a encore plusieurs années dans leur réservoir, selon moi. Mais c'est leur façon de donner le rub là, aux Street Profits, de dire the next big thing, c'est eux autres. Puis on peut pas bien, je veux dire, ils sont quand même très impressionnants. Puis je trouve qu'ils se réinventent à chaque match, ils sortent des nouveaux spots. Street Profits, qui a quand même une très bonne chimie. Là, je pense que c'est Montez Ford. Je suis pas encore 100% sûr de leur nom, mais Montez Ford, lui, c'est comme clairement la star entre les deux, là, ses aptitudes physiques, athlétiques.
C'est de Shawn Michaels.
Ouais, c'est ça. Il est incroyable, puis comme il est vraiment divertissant. Mais je trouve que l'équipe a un bon casting. Ils sont à NXT, c'était intéressant, mais quand ils sont arrivés dans les ligues majeures, que ça a vraiment explosé. Donc je trouve ça, c'est, en tout cas, la décision de booking était la bonne, de faire gagner les Street Profits sur le New Day. Je pense que c'était logique, puis il n'y a personne qui va être trop déçu de ça.
100% d'accord. Toi, Will, t'en as pensé quoi?
Ben, heureusement, parce que, je veux dire, dans les dernières années, là, du New Day qui gagne Tag Team tout le temps, on en a tout le temps vu. Puis moi, honnêtement, malheureusement, je m'attendais à ce qu'il gagne parce qu'on est habitué à voir ça. Mm-hmm. J'ai été bien content que Street Profits gagne parce que c'est probablement mon Tag Team préféré du moment. Là. Mm-hmm. C'est comme Mathieu y dit, là, avec Montez Ford, tout, là, c'est super bon.
Pourtant, la première fois que je les avais vus à NXT, Street Profits, je suis comme, bon, c'était une autre équipe qui essaye trop, ils feront rien d'intéressant, puis finalement, ça a été l'ascension fulgurante. Donc, c'est ce qu'on dit en anglais, to eat crow, là, je mange du beau pour montrer que ma première impression était fausse.
Ouais, ben, eux autres, c'est vraiment crucial, la foule pour eux, puis j'espère vraiment qu'ils vont garder les titres jusqu'à WrestleMania pour espérer avoir une fois la WrestleMania. Il n'y a rien qui garantit ça avec ce qu'on vit présentement.
Ben, je pense qu'ils veulent 25% du stade pour WrestleMania, puis sachant que genre ce stade-là, il y a genre à peu près, je me trompe pas, quelque chose comme 75 000 places. Le stade à je pense qu'il va en avoir du monde quand même pas mal.
Ouais, ça pourrait être pertinent. Le troisième match de la carte, si je me souviens bien, c'est féminin, ou sinon c'est Bobby Lashley, Sami Zayn?
Oui, c'est Bobby. Oui, c'est Bobby.
Bon, notre Québécois, c'est la carte, notre deuxième. Bon match. Il s'est pas fait squasher. Tout le monde pensait ça. Moi, je voyais ça beaucoup passer sur Facebook. Ça va être un squash pour Zayn.
Ben, il a pas fait beaucoup d'offense.
C'est ça, il n'a pas si bien paru, je pense. C'était vraiment un affrontement, la force brute contre l'ingéniosité. Tu sais, justement, Sami Zayn nous a habitués dans les derniers mois à trouver des façons originales de gagner, puis qui n'étaient pas juste des façons malhonnêtes ou des façons peureuses, si on veut. C'était juste ça, c'était ingénieux, mais là, il n'y a rien du genre qui a eu lieu dans ce match-là. Donc, j'ai l'impression que l'histoire n'a pas été autant racontée qu'elle l'aurait dû l'être.
Ouais, puis moi sincèrement, j'aurais aimé ça que ça me push parce qu'il est québécois, c'est sûr que, tu sais, ça me donne à Viking Kong, mais juste le build-up qu'il a fait sur Twitter, là, c'est Twitch, je sais pas si tu les as vus, là, mais c'était d'or en bord, là, c'était excellent. Ah, j'étais un peu déçu. Puis Bob, au moins, ça, Bob Lashley puis Hurt Business, ils ont dû à bien s'aimer à WWE, fait que...
Est-ce que, tu sais, là, quand Hurt Business a commencé, il était clairement des noms. Est-ce que c'est encore des méchants, Hurt Business?
Non, ils ont ça à avoir. Ben, c'est plus des tweeners, tu sais.
Mm-hmm.
Parce que là, contre Retribution, sont clairement des faces.
C'est ça.
Avec Sami Zayn, c'est clairement des faces aussi. Mais tu sais, il agissent quand même en heel un peu.
Mm-hmm. Mais de moins en moins quand même. T'sais, ils sont présents autour du ring, mais ils n'essayent pas nécessairement de tricher non plus, ce qui serait comme le trait de caractère de base des méchants.
Des méchants, ouais.
C'est mais ça, ils ont laissé Ricochet tranquille.
Dans leur promo, ils sont ill. Par contre, ils ont eu un match Raw Tag Team il y a 2 semaines contre New Day, puis ils étaient super ill dans leur promo. Mais dans le ring, là, comme Mathieu et Tom dit, là, vous dites, là, dans leur action, ils sont quand même sont face. Ils sont vraiment assimilés entre les deux.
Mm-hmm.
Mais moi, pour venir à Sami Zayn, je trouve qu'il a quand même bien sorti, moi, comparé à vous deux. Bon, je m'explique, côté lutte, là, c'était pas fameux, mais il y avait quand même une dominance du côté de Bobby Lashley. Mais j'ai trouvé ça pertinent, tous les petits segments avec l'histoire de la jambette à côté du ring, qui essaie d'enlever le ring corner. J'ai vraiment aimé ça, qu'on a continué de garder le heel malgré qu'il se faisait dominer. Puis bon, c'était presque impossible qu'il gagne, à part avec un roll-up surprise ou Retribution qui vient attaquer. Mais moi, je trouve qu'il a quand même bien paru.
Mm-hmm. Ou avec en entraînant la disqualification de l'adversaire. Ça aurait été dans l'option que j'aurais eu en tête. Mais
aussi,
on a donné une victoire assez clean à Bobby Lashley. Puis, je comprends, mais je veux toujours que Sami Zayn gagne parce que c'est du chauvinisme, c'est mon boy. Mais bon, on peut pas toujours gagner.
Ah, je suis pareil. Fait que, sens-toi pas mal.
C'est correct, tu me rassures.
Surtout depuis qu'il est ill avec son nouveau personnage. Moi, c'était crève-cœur quand il a pris le titre à Jeff Hardy. Là, j'en voulais à toute la terre complète. Mais là, écoute, c'est un Québécois, c'est Sami Zayn. Son personnage est incroyable. Super content de le voir avec un beau spot comme ça dans le show.
Ouais, puis ton Jeff Hardy, là.
Ouais.
Je pense juste que là, ils vont recommencer à raconter une histoire autour du titre intercontinental parce que, tu sais, dans tout le build-up menant à Survivor Series, c'est comme pas vraiment une histoire qu'on a développée, même souvent, il était même la carte des épisodes hebdomadaires de SmackDown. Donc là, tu sais, c'est un champion. Là, quand même, il mérite d'avoir sa storyline. Alors, espérons que les choses vont se régler bientôt.
Ouais. Ça, la ceinture intercontinentale, ça a souvent été considéré comme la ceinture des workers, fait que ça m'étonne de ne pas l'avoir à la TV. Après ce match-là, c'était le match à filles, il me semble.
Ouais, exact.
Le 5v5 ou le championnat, je ne me rappelle plus.
Non, exactement. C'était Sacha contre Asuka.
Ouais, exact.
Le match d'or, vous ne vous souveniez pas tantôt qui avait gagné, donc ça...
C'est ça, ça dit beaucoup, t'sais. Je pense que j'ai fait une sieste ce match-là.
Je me confirme que tu faisais une sieste ce match-là.
C'est vrai.
Je faisais pas de sieste, je me reposais les yeux.
Mais Sacha qui a gagné, heureusement, là, je pense que ça aussi, c'était la bonne décision de... Ben, ça aussi. Cette fois-ci, c'était la bonne décision de booking parce que, tu sais, ce qui est un peu le nuage qui rôde au-dessus de la tête de Sacha Banks depuis même des années, c'est que... elle a souvent eu des beaux moments quand elle remportait le titre, mais elle n'a jamais réussi à, disons, asseoir un règne de championne vraiment convaincant. Souvent, elle perdait son championnat la semaine d'après ou dans le mois d'après. Là, elle n'avait jamais réussi à battre Asuka, qui est elle, t'sais, qui, avec Charlotte Flair, là, c'est comme les deux lutteuses les plus dominantes du roster. Donc, de finalement donner une victoire à Sasha contre Asuka dans un match qui, en bout de ligne, n'a pas d'autres implications que juste montrer que Sacha est meilleure qu'elle a été dans le passé. J'ai trouvé que c'était quand même bien fait. C'est pas une victoire, tu sais, qui était vraiment dominante, genre une espèce de knockout là, avec un finisher ou par une soumission. Là. C'était juste comme une série de roll-up, là, je pense, là, qui a mené à la
ouais.
de Sacha. Mais quand même, que ce soit elle qui sorte victorieuse de ça, c'est bien. Puis, tu sais, Asuka n'a pas l'air... Sa valeur marchande n'a pas baissé pour autant. Là. Elle est faite à vie, là,
ouais, mais ce match-là, honnêtement, j'en ai parlé plus tôt, mais c'était l'occasion parfaite de faire avancer une histoire juste pour que ce pay-per-view-là y ait une raison d'être. Dans la grande continuité des choses, ça du
Ouais, mais bon. 100% d'accord. Comme c'est Will tantôt qui a dit ça, Carmella, on aurait dû l'avoir là. Ça fait une couple de semaines sur SmackDown qui est autour du titre, qui est autour de Sasha Banks. Moi, je m'attendais à l'avoir dans l'équipe de SmackDown. On ne l'a pas mis là. Je me suis dit, bon, d'accord, c'est pour intervenir sur le match de championnat. On ne l'a pas vu là. Il y avait une rumeur aussi que la WWE avait signé une ancienne lutteuse une couple de semaines. C'est qui de par mémoire? Là,
oui, Melina, me semble.
Mais Melina, je me dis, pourquoi pas Melina, un retour à Survivor Series? Ça aurait pu, ça aurait pu.
Personnellement,
elle n'avait pas sa place là, mais je me dis, j'aurais aimé ça avoir une surprise parce qu'autour de ce match-là, comme Mathieu dit, c'est deux très bonnes lutteuses, là, Sasha Banks et Asuka. Je leur enlève rien côté in-ring, mais côté histoire, comme un peu le reste du show, c'était pas fameux.
C'est ordinaire, ouais. Seul match.
Ça sert à rien de raconter une histoire qui va mener à autre chose dans un concept comme ça parce qu'ils se recroiseront avant WrestleMania ou le Royal Rumble, tu sais, dans le ring, étant donné qu'ils sont sur deux brands différentes. Fait que c'est vraiment lié aux contraintes du concept lui-même de Survivor Series.
Ouais. Ben, sachant qu'il y a une histoire, c'est le 5v5 de filles. Je pense qu'on est rendu ouais. D'ailleurs.
Mm-hmm. Oui, c'est ça.
Lana, Soul Survivor.
Ben,
on s'en attendait pas. Mais après
non, ça, vrai, moi je m'attendais à ça. Là. Je pense qu'on avait tellement insisté dans les dernières semaines sur le fait qu'elle se faisait bullier. T'sais, à la base, Lana, il n'y a personne qui la prend au sérieux. Okay? Parce qu'on s'entend, là, c'est dans le ring, c'est pas super. Là, qu'est-ce qu'elle fait? De se faire passer à travers la table pendant, je ne sais pas, il y a eu combien, genre 7 semaines consécutives, 12, 8 semaines?
12 fois?
Bon, ben c'est ça. T'sais, en bout de ligne, tu finis quand même par. Avoir de l'empathie là, pour elle, puis tu dis quand même, pauvre, tu finis par penser à la fille derrière le personnage, puis tu disais comme okay, elle mérite quand même pas ça, puis là en plus je pense dans les jours avant le Survivor Series, WWE a sorti une espèce de petit documentaire autour de Lana, où là elle parle de ses problèmes de dépression, là tu fais comme, oh shit, ok, mec. Tu sais, elle mériterait quand même d'avoir un petit nanan, puis t'avais une occasion, je trouve, de créer une nouvelle lutteuse avec Lana. T'sais, même quand ils la mettent un peu en retrait là, pendant le match en disant non, tu ne te battras plus, genre va-t'en en pénitence sur les escaliers, puis attends, nous autres, on va faire la job. Ben, on aurait dû quand même se retrouver dans une situation où, ben, parce que les membres de son équipe ont refusé de l'intégrer, elle se retrouve toute seule. Elle est, oui, la sole survivor, mais je pense que ça aurait été plus intéressant de ne pas faire le match comme ça a été le cas avec la double élimination, puis que là, elle est non seulement la dernière survivante, mais elle est la seule qui reste au total. Il aurait fallu qu'elle soit la dernière survivante de Raw, comme ça, sauver l'honneur de Raw retombe sur ses épaules, puis on aurait dû la faire éliminer du monde. C'est peut-être pas des façons les plus spectaculaire possible, mais quand même, on aurait dû lui donner des éliminations. Je pense que une espèce de catharsis, de sentiment de « bon, enfin, les choses vont bien » pour Lana aurait été plus satisfaisant dans cette situation-là que juste en faisant que « ah, en faisant rien, je suis la dernière suivante, c'est moi qui gagne le match. » Elle n'a pas gagné la crédibilité de cette manière-là, alors qu'on aurait pu en profiter pour lui en donner.
Je m'attendais à ça avant que PO me spoil la fin du match.
Ah oui?
Ouais, un petit délai de 10 secondes entre nos deux diffusions, là, mais je suis bien d'accord avec votre point, mais moi, ce qui m'a vraiment, vraiment allumé dans ce match-là, c'est le spot de Peyton Royce qui élimine Bayley. C'est audacieux comme choix. Tu fais « OK, Bayley, moi, je t'envoyais comme runner le show, le match plutôt, là, l'avoir vraiment longtemps dans le match. La première à se faire sortir, puis en plus, pas par Shayna Baszler, pas par Nia Jax, non, par Peyton Royce, d'une belle façon en plus. » Juste avant, plus une souplex dehors avec sur tout le monde. J'ai aimé ça. On a vraiment surélevé Peyton Royce l'instant d'un 5 minutes, puis j'ai trouvé ça pertinent.
Mm-hmm.
Ouais, ben ça va. On espère qu'ils vont lui donner une meilleure place dans l'histoire, là, parce qu'honnêtement, sa tag team avec Lacey Evans, alors qu'il était forcé de plus être dans la tag team avec Big E, là, à un moment donné, faudrait qu'il se penche.
Ben oui,
il va falloir lui redonner un personnage parce que là, elle fait son entrée, elle a l'air genre de create a wrestler sur genre WWE 2K. Kate n'a comme pas de personnalité. Pourtant, elle est capable d'en avoir de la personnalité. Les Iconics, là, c'était comme une des équipes, d'un point de vue des personnages, qui étaient les plus fortes. Là, c'est juste comme elle, puis ça se donne un petit swing dans les cheveux, puis that's it. Faut y trouver quelque chose. Peyton Royce, elle, de l'autre côté, elle n'a pas de beau spot de lutte, mais au moins, je pense qu'on essaie de construire une histoire autour d'elle, donc il faudrait faire la même chose pour Peyton.
100% d'accord. Toi, Will?
Moi aussi, je m'attendais honnêtement à ce que Bailey soit peut-être pas la dernière, mais qu'elle soit là. Je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle a perdu son championnat. Elle a été championne pendant plus d'un an. Fait qu'à quelque part, tu t'attends à ce que ça soit meilleur que ça. Puis, de l'autre côté, Peyton Royce, on voulait donner un push solo. Ça a été oublié un peu. Est-ce que ça recommence avec, justement, l'élimination de Bailey de même à Survivor Series? Ça peut être de quoi d'intéressant à voir aussi, de voir comment ils vont utiliser ça. Mais tu sais, sinon, dans l'ensemble, le match, c'était assez ordinaire avec la fin aussi.
Mm-hmm. Ben, c'était une fin un peu spéciale. Moi, j'avais prédit une domination de Shayna Baszler, finalement, pas tant que ça. Là. Ça
a c'est un autre talent. Un knockout de Bianca Belair, puis assez fatigué, c'est quand même assez dominant.
Bianca Belair. 2 secondes.
Parce qu'elle
n'a pas été éliminée, Bianca, avec ça. Elle avait réussi à mettre sa main sur la corde. Bianca, dans le fond, était dans les deux avant-dernières, là, si on veut, avec Nia Jax.
Oui, avec Nia Jax. Pas là-dessus.
On dirait que, tu sais, ça fait plusieurs années, même, on entend que c'est pas une travailleuse très sécuritaire. Puis à chaque fois là, que je la vois sur le bord de faire un spot le moins vraiment dangereux, là, hey, c'est énorme. Puis tu sais, ça peut être bien si c'est le lutteur qui veut te stresser. Mais là, c'est pas le cas. C'est juste parce qu'on a vraiment peur encore qu'elle blesse ses collègues. Puis encore, là, il y avait un spot à m'amener où il fallait qu'elle sorte quelqu'un par-dessus les cordes sur le côté. J'étais comme... Ouais. Donc, ça s'améliore pas pour elle.
Non, c'est pas chic ben. Hein.
Surtout que, tu sais, j'haïs sa gimmick actuelle, son histoire avec Shayna Baszler. Je trouve pas ça intéressant. Puis, tu sais, c'est surtout tellement incohérent.
Elle a jamais vraiment été intéressante non plus, on se cachera pas.
Elle a un peu le syndrome Big Show, là, où ils l'ont tellement flippé de bord que, genre, ça devient difficile à suivre. Tu sais, on se souviendra. Tu sais, une de ses principales histoires de Babyface, elle avait été championne des femmes avec ça, notamment, c'est que.
Ah oui.
Elle était donc triste de se faire boulier dans la vie parce qu'elle était plus grosse que les autres. Tu sais, genre, c'était contre Alexa Bliss, notamment. Mais là, c'est comme tellement la plus grosse fucking bully qu'il n'y a pas. C'est comme, tu sais, genre, il y a un an, tu me disais que le bullying, c'est mal. Là, tu le fais, genre, ça marche pas, je crois pas.
Range-toi, à un moment donné, là.
Ouais, c'est pas pour ça.
Mais Bianca Belair, quand même, continue de progresser. Moi, je suis en amour avec elle depuis ses débuts à NXT. Je la trouve tellement impressionnante. J'espère qu'on va pas la gaspiller.
Ouais, ben, ça continue même, c'est une future championne garantie.
Je l'espère.
Moi, je pense que ça va être elle qui va détrôner Sasha Banks. En plus que leur gimmick se ressemble un peu, les deux. Moi, je verrais vraiment un affrontement à WrestleMania de ces deux-là. Tu gardes Carmelo autour pas longtemps, puis après ça, t'envoies... Je pense que
c'est ça. En plus, Sasha Banks, Bianca Belair est tellement forte. Sasha, elle, est tout petite. Genre, Sasha pourrait se faire varloper solide là, par Bianca Belair, mais de façon sécuritaire, ce que Nia Jax ne pourrait pas offrir. T'sais. Donc, je pense que le match-up entre les deux pourrait être vraiment intéressant.
Oui, exact.
Je pense qu'il pourrait juste le match Reigns contre McIntyre, je ne me trompe pas.
Oui, exact.
Exact. Bon, c'est un bon match, honnêtement. Moi, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé genre les couples de Falsies avant le finish. Quand Drew il reverse un spear de Reigns en Kimura, j'ai marqué dans le salon.
Je pense que quand l'image au début d'avoir Roman Reigns et Drew McIntyre face à face, que les deux brandissent leur championnat, c'est clair que dans Gorilla Position en arrière, Vince était bien bardé. Là, c'était comme son rêve. Là, c'est comme une image vraiment qui représentait bien la lutte. Je trouve qu'une des affaires que je trouve le fun, c'est qu'on a deux champions présentement, deux champions principaux qui sont qui sont crédibles, qui sont vraiment dominants. Un est gentil, l'autre est méchant. Mais le méchant n'est pas, c'est ça, c'est pas un champion peureux. Mais je trouve que la scène des championnats est quand même vraiment bien présentement. Puis c'est plus intéressant d'avoir eu ce match-là que si ça avait été Roman contre Randy Orton, parce que ne l'oublions pas, il était champion il y a de cela une semaine et demie ou deux semaines à peu près. En plus, ça aurait été comme méchant contre méchant. Là, c'était vraiment bien. Puis moi, en fait, je pense que ça a été mon match de soirée. Là. Encore une fois, c'est tout frais du fait qu'il n'y ait pas d'enjeu véritable. Puis là aussi, je trouve ça plate, surtout pour les titres principaux, de finir avec le message qu'il y a un de ces deux champions-là qui est meilleur que l'autre. Mais en même temps, de la façon qu'ils l'ont fait, c'est avec un peu de tricherie là, de la part de Jey Uso qui est venu. C'était quand
même... Il n'a pas fait grand-chose, Jey Uso. Là.
Non, il n'a pas fait grand-chose, mais tu sais, ça a permis le low blow de Roman Reigns à McIntyre. Puis ça fait en sorte que McIntyre demeure quand même protégé. Tu n'as pas l'impression qu'il est vraiment moins un bon champion que Roman Reigns. Il a juste, disons, souffert des circonstances. Là. Mais globalement, le match était quand même très bon. J'ai fait partie des critiques de Roman Reigns à plus d'une reprise dans les dernières années parce que son personnage fait tourner en rond. Mais depuis qu'il est devenu champ, c'est de l'or en bas. C'est de loin ce que la WWE a de mieux à offrir présentement. Donc, bravo pour ça. On aime ça les critiquer, mais quand ils font des bons coups, il faut quand même le souligner.
C'est ça. Ben, honnêtement, moi je suis même avec toi, Roman Reigns, pendant de nombreuses années, je ne l'aimais pas. Mais là, depuis qu'il est devenu méchant, je sais pas, il a comme eu la edge qui manquait, surtout avec Paul Heyman. Puis là, c'est bon. C'est vraiment bon.
Ouais. Moi, quand j'ai vu Jey Uso s'en venir en courant, j'étais convaincu que c'était Miz. Parce que c'est au moment que les deux l'arbitre était KO. Moi, là, j'étais super excité. J'étais comme, OK, ça se passe live. En plus, 10 ans plus tard, pas sur le même lutteur, mais 10 ans plus tard, même place, let's go. Finalement, c'était Jey Uso. J'étais comme,
ça faisait 10 ans que Miz avait gagné le championnat avec Money in the Bank.
Ouais, en plus, en même arena qu'il y a 10 ans en plus. Fait que...
Ouais, OK.
Je m'attendais à un cash-in, honnêtement. Là,
moi aussi. Avoir eu Orton comme champion encore, ça a été encore plus pertinent. 10 ans plus tard, même champion, même place. C'est peut-être pour ça qu'on a changé les plans dernière minute, là, je veux dire. Mais j'y ai cru un petit instant.
Je pense, par exemple...
Là, moi, la question sur le règne de Drew, là, ils vont faire durer ça combien de temps? Parce qu'on sort d'un règne de 6 mois, au-dessus de 6 mois. Fait que là, s'ils sont partis pour un autre 6 mois... Ça serait temps d'un changement, je trouve.
Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas encore eu le temps de me tanner de McIntyre comme champion. En même temps, il faut dire que j'ai pas. C'est vraiment pas l'année où j'ai le plus écouté la lutte. Avec justement. C'est surtout là, c'est moins pire depuis qu'ils ont mis le Thunderdome. Là, mais avant, je trouvais ça un peu lourd à regarder Raw et SmackDown. Puis c'est peut-être aussi une des raisons que je me dis pourquoi on veut prolonger son règne parce que. C'est un bon champion, sauf que c'est comme c'est quasiment un règne avec un astérisque parce que lui-même ne peut pas vraiment savourer ce championnat-là, vivre la gloire dans les arénas devant le monde. Alors peut-être qu'on veut lui permettre de goûter à ça en espérant que justement les choses reviennent à la normale dans pas très longtemps. Mais c'est un champion crédible, c'est ce qu'on recherche. Moi je dis bravo. Puis aussi, moi je m'attendais pas quand même à ce qu'il y ait un cash-in. Je pense que ça aurait été possible s'il n'y avait pas eu la cérémonie d'Undertaker après. Mais là, on voulait vraiment que comme le spotlight soit sur Undertaker. Là, ça aurait comme créé, ça aurait enlevé de l'attention sur cette cérémonie-là. Donc, je pense pas que c'était le bon moment pour le faire, le cash-in. Mis à part, ben là, vous m'apprenez par contre là, qu'il y avait l'espèce de dimension historique là, du 10 ans. Ça, c'était intéressant, mais quand même pas assez pour enlever du spotlight à Taker.
Ouais. Parlons-en d'ailleurs. C'était très décevant.
Ben, il n'y avait pas de fans. Selon moi, avec des fans, ça avait été un autre dynamique.
Ben, je veux bien, mais tu fais rentrer tes 20 légendes sur le ring. C'est le fun de les voir. Tu sais, moi, Savio Vega, Ric Flair, tout ça, je suis bien content de les voir. Tu fais rentrer sur le ring, tu fais rien faire, même pas de speech, rien. Après ça, tu passes son vidéo package, ils sont plus là. Taker prend une demi-heure à faire son entrée. Dit trois phrases, genre c'est fini, rest in peace. J'ai bien aimé le diagramme de Paul Bearer, mais à part de ça, il s'est rien passé.
Mais c'est peut-être parce qu'on avait des attentes un peu avec The Fiend ou un Undertaker qui dit non, je pars pas ou peu importe quoi. Là. Même un Brock Lesnar, tu sais, qu'on on sait pas, lui qui a brisé la streak, aurait pu revenir ou un CM Punk. Je sais que Tom t'idole CM Punk. Là. C'est peut-être parce qu'on idolait trop le segment que finalement on était déçus, mais c'était pas si mauvais que ça. C'était correct, c'était correct.
Non, c'était pas mauvais. Je pense que c'est ce que ça devait être, mais ça a souffert du manque de fans. Puis, tu sais, on a voulu compenser ça avec des espèces de rires en canne de lutte, là, c'est-à-dire genre des applaudissements puis des chants enregistrés. Mais le fait que ça soit préenregistré, je trouve qu'à quelque part, ça avait un peu l'effet contraire de ce qui était espéré. T'sais, on voulait, oui, créer de l'ambiance, mais ça nous rappelait encore plus qu'il n'y avait pas de monde, je trouvais. Donc, ça c'était c'est dommage, surtout c'est pour un lutteur légendaire comme Mark Calloway. T'sais, il aurait mérité d'avoir de quitter la scène avec des véritables acclamations d'un vrai public. Mais bon, compte tenu des circonstances, surtout que là, on était chanceux de pouvoir tomber sur vraiment jour pour jour, là, 30e de son début. Donc, il fallait absolument que la cérémonie ait lieu à ce moment-là, ça je comprends, mais c'est ça, c'était un peu long. T'sais, je veux dire, si ça avait été aussi, mais que ça avait été en raison de la foule organique, naturelle, là, qui est juste comme trop pleine d'émotions, puis qui n'est pas capable de le laisser parler parce qu'il veut, tu sais, la foule veut pas qu'il s'en aille, ça aurait été cool. Mais là, de nous faire croire que c'était ça, des enregistrements. Je suis pas sûr. Puis en plus, petit détail, c'est pas grand-chose, hein? Mais que je voie pas une éclosion de COVID parmi ces légendes-là qui sont toutes arrivées, qui sont toutes serrées la main, qui ont toutes genre 80 ans à peu près au début, là. Ils ne feront pas quoi, toutes faites une quarantaine de 15 jours avant, puis qu'ils vont en faire une de 15 jours après. Là. Donc, tu sais, on remarquera, là, non seulement Kane, c'est ça qui est arrivé en costume à la fin, mais c'est ça qui a fait comme, non, moi, je ne vais pas vous voir. Il est resté dans son coin du ring en disant, moi, je ne touche pas. Là. C'est quand même un personnage politique, ouais. Maintenant, qui a comme peut-être des responsabilités ou une image publique à entretenir, mais... Pour moi, Kane, c'est le seul qui a bien géré cette réunion-là. Moi, de voir là, toutes ces personnes âgées-là qui se font des high-fives, là, il me semble que c'est pas le moment de faire ça.
Ben, de toute façon, même s'il y en a une, ils ne diront jamais. Là, on ne se cachera pas.
Ouais, non, mais c'est parce qu'ils sont vieux. Ils peuvent, tu sais, je veux dire, ils ont des
problèmes de
santé. C'est sûr, ils pourraient en mourir. Là, ça serait comme. Est-ce que ça aurait valu la peine, là, juste pour ce segment-là? Je ne suis pas sûr.
Pas sûr.
100% encore. Puis, en effet. T'sais, on brise un peu le côté lutte, ça serait bête de partir un autre mini-vague de COVID juste à cause de ce segment-là. Ça serait vraiment. Ça serait la négligence, la grosse négligence.
Mm-hmm. Pour en revenir, Staker. Mm-hmm. Non, vas-y.
Ah non, mais c'est surtout que, en plus, ça ne servait pas à grand-chose qu'il soit là. Je pense que c'est juste comme Undertaker qui a voulu partager ce moment-là avec ses amis. Parce que, tu sais, il y en a plein que je connaissais pas vraiment. Tu sais, comme il y avait comme les Whatever Brothers. Là,
ouais, les deux et Billy.
Ça, moi, je n'ai jamais vu ces gars-là avant. J'ai aucune idée c'est qui. Là, j'ai compris après là, que, comme leur gang backstage, là, BSK, là, ou une affaire de même là, avec Rikishi. Fait que, tu sais, c'est comme pas nécessairement des lutteurs qui ont tous eu beaucoup de succès, mais c'était comme la clique de Taker sur la route. Donc, tu sais, peut-être, oui, c'est une bonne idée. Alors, on peut comprendre qu'il veut partager ce moment-là avec eux, mais rester autour du ring pendant qu'il fait sa dernière promo, quelque chose, là, ils sont juste disparus. Fait que c'est bizarre.
Ouais, c'est ce qui est décevant. Moi, Taker, je pense que c'est pas fini. Là. Je m'attends encore à ta fine, à WrestleMania. Honnêtement, pour faire le passing of the torch, ta créature super naturelle à WWE, je sais pas.
C'est pas le droit, mais ça a été annoncé qu'il ne ferait plus de match. Il pourrait être utilisé pour des promos ou whatever, là, mais c'est impossible qu'il fasse des matchs, ça a été annoncé. Puis là, il a pris sa retraite, mais il ne sera pas considéré traité justement qu'il soit intronisé Hall of Fame. Mais c'est pratiquement sûr à 100% qu'il n'y aura plus de match.
Mm-hmm. Ben oui, je ne vais pas être peut-être dans le lieu, faut jamais dire jamais.
Ouais, peut-être. Ça a été annoncé par lui-même. Là. Fait que je veux dire, quand même, la crédibilité là-dessus. Là.
Puis c'est toi, quand
même, tu penses quand même que CM Punk va finir par venir. Fait que faut pas trop se fier à ce que tu dis.
Ben, check Shawn Michaels. Il a pas lutté pendant presque 10 ans. Puis il est revenu. Peut-être que s'ils vont faire un Crown Jewel, puis le chèque est là. Je veux dire.
Je pense pas. On se rappelle que le dernier Crown Jewel de Taker, ça a été désastreux.
Mais c'est ça. Je pense pas qu'il va vouloir reproduire cette expérience-là. Puis aussi, tu sais, je veux dire, peut-être que ce qui nous fait douter du fait que ça serait vraiment la fin, c'est que on a pensé par le passé que cette fin-là était arrivée. C'est notamment dans le WrestleMania qui a terminé en main event en lui contre Roman. N'oublions pas que le gars-là a fini avec lui qui laisse son chapeau, puis je pense que son French coat là, au milieu du ring, ça annonçait vraiment la retraite. Là, après ça, qu'on a vu qu'il finalement se battait encore, fait comme « Ah, OK, c'était pas une vraie retraite. » Sauf qu'il avait quand même, à ce moment-là, continué de protéger le personnage. Là, le personnage, là, la mystique Undertaker... C'est là que la vraie cassure a eu lieu. Je pense justement avec tout le mois passé, avec la série documentaire Last Ride qu'ils ont faite. Jamais avant, on a pu entendre Mark Calloway parler et non pas Undertaker. Et ça, je pense, c'est ce qui vient confirmer vraiment que c'est la fin pour ce personnage-là. Puis c'est correct. Là, je veux dire, il n'y a plus rien à prouver. Là. C'est quand même un des lutteurs qui a le plus de longévité de l'histoire. Donc, moi, je ne crois pas à un retour. Je crois que ça a été bien fait, là, compte tenu des circonstances. C'était le moment pour tirer la plug. Puis ben, bravo à lui.
Ben oui, je lève mon chapeau. Grosse carrière, Undertaker.
Mm-hmm. Une légende, d'ailleurs.
Mm-hmm. Ouais, ouais. Ben, rapidement, sur 10, vos appréciations sur le show Survivor Series. Puis on peut inclure aussi Undertaker là-dedans. Hein.
Un 6-7, je te dirais. C'est pas fameux. J'ai bien mieux aimé Hell in a Cell le mois passé, honnêtement.
Mm-hmm. Ouais.
Non, moi, j'aurais dit 6 aussi parce que la lutte était somme toute intéressante, mais il manquait d'enjeu puis ça a quand même fait souffrir mon appréciation. En bout de ligne, je suis resté devant mon écran. J'ai écouté après ça l'entrevue que Taker a fait avec Stone Cold, le podcast qu'il y avait sur le WWE Network. J'ai trouvé ça plus intéressant que le pay-per-view dans son ensemble. Donc, de voir deux gars qui jasent en prenant des shots, que ce soit plus intéressant que d'avoir genre 2h30 de lutte. Je pense que le message passe.
Ouais.
Je vais y aller aussi avec un 5,5-6. Là. Je trouvais qu'il manquait de pertinence dans le show. Storytelling, c'était pas fort, mais côté lutte, c'était quand même bien. Puis Undertaker, ben, c'était une belle place. 30 ans, même place, jour pour jour. Mm-hmm. Donc, un 5,5-6.
Ouais.
Et toi, Will?
Ben, c'est ça. Ça mérite pas plus qu'un 6, selon moi. Tu sais, il y a eu un gros manque de rivalité et d'histoire surtout tous les matchs. Là. C'est un peu toujours comme ça avec Survivor Series. C'est sûr que l'année passée, bon, il y a été avec les invasions. Ça donnait un peu plus de ça donnait un petit quelque chose de plus. Là, ça a vraiment été garoché comme ça. Puis, les deux matchs 5-on-5, là, les deux équipes, c'était un peu ridicule.
Mais moi, je m'ennuie du temps où que Survivor Series avait des enjeux, genre que le titre était défendu, que tu avais le match 5 contre 5, mais que tu avais vraiment des enjeux qui faisaient avancer l'histoire, pas juste « OK, là, c'est Raw contre SmackDown. Ouais. » Puis on va voir qui c'est qui est meilleur.
Mm-hmm. Bien d'accord. Mm-hmm. Ben, sur ce, Mathieu, un énorme merci d'être venu avec nous autres, José.
Ben, c'est très gentil d'avoir pris la peine de m'inviter. Donc, j'espère que je ne vous ai pas fait honte avec mes propos.
Aucunement.
Pas du tout. On rappelle aux auditeurs que Mathieu fait partie du podcast Le Petit Paquet qui est
en collaboration avec RDS.
Merci Thomas avec RDS. Puis si ce n'est pas déjà fait, de se procurer son livre La Lutte de Mathieu Poulin. Excellent livre. Fait qu'on vous souhaite une bonne fin de journée aussi.